merci, bons travaux pour ces deux journées à Marseille, en espérant que vous serez ainsi inspirés. Merci beaucoup.
Les 8 et 9 octobre dernier, Radio Grenouille avait décidé d'enfiler son costard-cravate pour assister au séminaire initié par la BEI, la Banque Européenne d'Investissement, dans le Palais du Pharo. Au programme, un projet nommé Medina 2030. Philippe de Fontaine-Vive, bonjour. Alors, vous êtes le vice-président de la Banque Européenne d'Investissement. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez présenter le projet Medina 2030 ?
L'initiative Medina 2030, c'est de faire en sorte que le patrimoine fabuleux qui existe dans les centres-villes en Méditerranée et qui est en phase de dégradation très importante, avec une pauvreté et une perte de cachet pour les habitants et pour les visiteurs, soit remplacé par une dynamique économique qui fasse que les gens trouvent des emplois sur place, une qualité de vie supérieure, et qu'on ait ainsi un retour au centre de vie dans les villes.
Comment comptez-vous vous y prendre très concrètement ?
Je crois qu'il y a deux écueils à éviter. Il y a d'un côté vouloir faire des centres-villes anciens, des musées pour touristes, où on aurait de beaux bâtiments, mais sans vie et sans habitants, en rejetant les habitants souvent pauvres dans des bidonvilles à l'extérieur des villes. C'est ce qu'il faut éviter. Ou alors raser pour faire des bâtiments modernes, et réinstaller la population dans ces bâtiments modernes, mais sans âme. Donc l'idée, c'est de garder l'âme, les bâtiments, les habitants, mais en mettant de la mixité qui permet comme cela de créer de la richesse économique et culturelle. Donc ce qu'on a décidé en lançant cette initiative qui va durer pendant 2 ans et demi, c'est de permettre à toutes les expériences qui ont lieu en Europe et en Afrique du Nord de se comparer pour voir ce qui a marché, et ce qui a moins marché.
Est-ce que vous connaissez l'exemple de la rue de la République à Marseille ? Et quel regard vous portez dessus ?
C'est un projet qui est loin d'être abouti. Quand on a eu la chance, comme moi, d'habiter le bas de la rue de la République, c'est-à-dire qu'on a pu bénéficier d'un accès tout à fait requalifié au Vieux-Port, ça montre que cette requalification est possible. Mais en même temps, on voit que l'ensemble du projet est loin d'être mené à bien, et donc il y a un travail qui est tout à fait dans le même esprit, même si ce n'est pas une médina.
D'accord, c'est une sorte de contre-exemple finalement pour vous alors.
Je ne me permettrai pas à aucun moment donné de porter un jugement sur ce que font tel et tel maire pour l'amélioration de la qualité dans leur centre-ville. C'est aux habitants de décider la façon dont ils veulent que leurs autorités locales rénovent leur centre-ville.
Mais c'est justement pas ce qui s'est passé à la rue de la République, puisque c'est typiquement l'exemple où il y a eu une augmentation fulgurante des loyers et une grosse partie de la population a été obligée de fuir, en fait, enfin de partir. Quoi.
À ma connaissance, la Banque européenne d'investissement n'a pas été sollicitée à l'époque pour participer à cette opération.
Ce discours est certes bien construit, mais n'y aurait-il pas un peu de langue de bois ? Car il faut mieux bien tourner les choses pour vendre un tel projet. Je profite donc d'une pause café pour interviewer Marcello Balbo, un universitaire italien, urbaniste, en espérant qu'il m'apporte un certain recul, voire un regard critique sur tout cela. En ouvrant la porte aux investisseurs privés, comment garantir simplement et concrètement que la réhabilitation n'entraîne pas une augmentation des loyers ?
Alors, là, c'est évidemment un thème extrêmement compliqué. Il faut mettre en place des moyens de suivi, des interventions, des contrôles, que les loyers n'augmentent pas de manière telle à entamer l'expulsion des plus pauvres. Mais là aussi, je suis très, très sûr, très rigide. Il ne faut pas imaginer que le maintien des habitants qu'il y a dans ces parties de la ville, des habitants d'aujourd'hui, soit un objectif. les habitants d'aujourd'hui ne sont pas les habitants des villes historiques. Ce sont les habitants d'aujourd'hui qui sont différents des habitants qu'il y avait hier et qu'il y aura demain. Ça, c'est le premier point. Deuxième point est que si on veut réhabiliter, mettre en place un processus de réhabilitation de ces parties des villes, il est non seulement inévitable, mais il est un indicateur de succès que les loyers augmentent. Il n'y a aucune... Ça, c'est un rêve des architectes et des urbanistes. Moi, je suis un urbaniste et, si je peux ajouter, progressiste de gauche. Mais c'est un rêve. Et c'est faux. Si l'intervention de réhabilitation a un succès, cela est indiqué par le fait que des gens de... income...
d'un niveau de vie
plus élevé, retourne dans cette partie de la ville. Et donc une partie des habitants qui habitent aujourd'hui partiront ailleurs. Le problème est de les aider à partir ailleurs. Et peut-être, et souvent ils veulent partir ailleurs, parce que la ville telle qu'elle est, la ville historique telle qu'elle est en ce moment, est une ville dégradée, etc. Donc ils veulent bien partir ailleurs. Donc le problème est de mettre en place des mesures d'accompagnement parce qu'ils ne soient expulsés, mais qu'ils soient mis dans les conditions de pouvoir choisir d'aller habiter ailleurs. Je comprends que c'est un peu complexe, mais ce n'est pas diplomatique.
Sinon, je voulais savoir si ce séminaire est réellement utile à votre avis.
Le séminaire n'a pas été inutile, et donc, comme tous les séminaires, assez ennuyant, mais d'autre côté aussi, j'ai appris quelque chose et j'ai joué mon rôle. Et tout le monde joue son rôle dans ces séminaires, dans ce genre de...
D'accord. Okay.
Je suis actuellement responsable dans un projet qui s'appelle Patrimoine culturel et développement urbain, qui est financé par la Banque mondiale, l'Agence française de développement, la coopération italienne et le gouvernement libanais. Donc c'est à hauteur de 60.
Effectivement, chacun est à sa place. Les investisseurs cherchent à investir, les maires à attirer les investisseurs et la BEI à leur permettre de se rencontrer. Car plus j'assiste au séminaire et plus j'ai l'impression que chaque personne qui passe à la tribune ne montre que les points positifs de la réhabilitation qu'elle a entrepris dans son pays. Chacun est exemplaire, finalement. Comment le débat peut-il avancer ? Je m'aperçois aussi, au bout d'un moment, qu'il est un protagoniste important qui est absent. La population. Quelle place a-t-elle ?
Encore merci, monsieur le maire, de nous avoir permis de nous réunir dans un cadre aussi prestigieux. Nous sommes les spécialistes, nous avons la chance d'avoir des responsabilités et nous essayons de les remplir au mieux. Mais il faut aussi que les gens sachent ce que nous faisons. Et c'est pourquoi je vous remercie également d'avoir accepté que pour le grand public, à la bibliothèque de l'Alcazar, il y ait une exposition en des termes différents de ceux que nous allons utiliser entre nous, entre experts, entre financiers, entre urbanistes, sociologues, anthropologues, mais qui permettent d'avoir un accès. Donc vous êtes tous conviés ce soir à l'inauguration de cette exposition. Et mon souhait, c'est que des milliers, voire des dizaines de milliers de Marseillais et de visiteurs de Marseille puissent ainsi comprendre que nous nous mobilisons ensemble pour améliorer leur cadre de vie. Et donc cette exposition Médina 2030 sera un point de rencontre, je pense, intéressant dans un quartier où les gens circulent beaucoup.
Florence Pizzorni, bonjour. Vous êtes conservateur en chef du patrimoine au MUCEM, le Musée des civilisations Europe-Méditerranée, et vous avez préparé cette exposition Médina 2030 à l'Alcazar. Alors tout d'abord, quel est le but de cette exposition pour vous ?
Alors l'exposition est principalement destinée à démontrer que ces interventions urbaines ne sont pas que des interventions patrimoniales ou des interventions sur du bâti. Il ne s'agit pas simplement d'interventions de techniciens ou d'ingénieurs. On travaille sur du tissu humain. Un centre-ville, c'est avant tout un tissu humain. Et le fait, il faut prendre conscience en permanence que le fait d'y toucher, de le rénover, de faire ce qui apparaît comme quelque chose de très positif, c'est-à-dire y mettre de meilleures conditions de viabilisation, de circulation, d'hygiène, génère généralement aussi un embourgeoisement du quartier, une augmentation des prix des loyers et des bâtiments. Et donc, ce qu'on appelle une gentrification, c'est-à-dire que les populations locales sont expulsées et en lieu et place viennent s'installer des familles plus aisées.
Donc, est-ce que vous vous êtes posé des questions quant au fait de mener une exposition en lien avec la BEI ?
Bien sûr, c'est vrai que les gens du monde de la culture ou du monde des sciences sociales, de l'université, ont peu l'habitude de travailler avec le monde de la haute finance et de la banque. C'est vrai qu'on n'a pas d'espace de partenariat dans notre société et j'espère que ce type de partenariat pourra aller plus loin qu'une simple opération de communication. Au jour d'aujourd'hui, c'est une opération de communication, mais c'est un premier pas et j'espère qu'on pourra aller plus loin.
D'accord. Vous avez eu peur en fait de perdre une certaine indépendance, d'être parce que vous parlez d'opérations de communication
comme,
finalement, c'est aussi
tout
ça.
Tout intellectuel de nous rapprocher de la finance, on a un peu l'impression de vendre son âme au diable. J'espère que c'est pas ce que j'ai fait. On verra.
I'm at my love by the gasworks wall.
Effectivement, on verra.
Dream the dream. By the old canal, I kissed my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town, dirty old town, dirty old town.